Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui d'un petit morceau de terre d'à peine 0,15 km² et qui reste cependant, et plus que jamais d'ailleurs, l'épicentre émotionnel du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe en général. Je veux bien sûr parler du mont du Temple, Har-Habayt, un lieu à propos duquel donc des émeutes ont eu lieu ces dernières années, il y a encore peu de temps, un lieu qui est aussi de plus en plus visité par les Israéliens, mais aussi par les touristes. Quelques chiffres pour situer cette évolution. 6 000 visites, par exemple, au mois de juillet, pour le simple mois de juillet 2021, et ce mois dernier, juillet, donc en 2022, 24 000 pour simplement ce mois de juillet, donc multiplier une visite, nombre de visites multiplié par 4. Bonjour, Rav Cherki.
Bonjour,
Shalom. Comment vous expliquez cet engouement, j'allais dire subi, en tout cas progressif, mais quand même significatif,
oui,
pour monter les Israéliens, les touristes, sur ce fameux mont du Temple?
Bon, il était tout à fait prévisible et quasiment inévitable que le mont du Temple, étant donné que c'est le lieu du Temple de Jérusalem, vous connaissez l'importance du Temple dans le judaïsme, qu'un moment ou un autre, ça devienne le centre d'intérêt et également le centre des frictions, au sein même d'ailleurs de la société israélienne, mais aussi donc entre les Juifs et les Arabes. C'est tout à fait normal. On pourrait dire que aujourd'hui nous vivons un moment où quelque chose est en train de se transformer dans la relation entre le judaïsme et l'islam. Entre le judaïsme et la chrétienté, ça s'est déjà réalisé lors de la fondation de l'État d'Israël et puis après la guerre des Six Jours, lorsque la fondation même de l'État d'Israël a été une remise en question, un point d'interrogation sur la dogmatique et la théologie chrétienne tout entière. Et on peut dire que ce problème pour les chrétiens est en train de se résorber d'une certaine manière, ça implique une certaine évolution au sein du christianisme. Qu'en est-il de l'islam? Qu'est-ce qui oppose fondamentalement la dogmatique musulmane et le judaïsme? C'est l'idée de l'achèvement de la prophétie. En effet, un des fondements, pourrait-on dire, de l'orthodoxie musulmane, c'est que le dernier des prophètes est arrivé et qu'il n'en a plus après. Or, le retour d'Israël à sa terre implique également un retour de la prophétie, et traditionnellement, nous savons que le lieu de la révélation étant le mont du Temple, il y a forcément une sorte d'attirance vers ce lieu, qui se traduit aussi bien donc par l'attirance de ceux qui rendent visite à ce lieu, et évidemment l'opposition, parfois même violente, de l'islam, peut-être parce que dans le subconscient collectif, on se dit, c'est là qu'il risque d'y avoir une remise en question théologique.
Et c'est-à-dire qu'effectivement, le risque pour l'islam théorique de voir que
si ce
lieu retrouve sa vocation originelle, oui, elle pourrait détruire, oui, ou remettre en cause. D'ailleurs, c'est une défense, en fait.
En fait, ça va très loin parce que ça implique une sorte de négationnisme absolument incroyable, comme quoi il y aurait une affirmation que le mont du Temple n'est pas le mont du Temple, qu'il n'y a jamais rien eu là-bas. Alors, on peut très bien comprendre, si on veut donner des circonstances atténuantes à cette position, c'est que lorsque l'islam est né, le temple était détruit déjà depuis plusieurs siècles. Et donc il n'y a pas de solution de continuité. Mais il a toujours été admis que c'était le peuple hébraïque qui a été celui qui a été choisi par Dieu et qui résidait dans son temple. Et puis, bon, alors il y a l'affirmation d'une sorte de remplacement, etc. Mais tout le monde savait que les enfants d'Israël appartiennent à Jérusalem.
Alors, voilà, on comprend mieux maintenant la raison fondamentale, j'allais dire théologique, métaphysique, de l'enjeu que l'on connaît aujourd'hui, et ça montre le moment où nous sommes dans l'histoire aussi.
Absolument.
Je voudrais qu'on reparle maintenant des questions halakhiques, parce qu'il y a tout un débat. Alors, on sait que la plupart des grands décisionnaires interdisent de monter sur le mont du Temple.
Oui.
Et pourtant, bon, il y a des gens qui disent non, on peut quand même y monter. Comment se présente cette question à l'Halakha?
Alors, c'est comme tous les problèmes de l'Halakha, les sources sont les mêmes pour tout le monde, vous connaissez. Il est intéressant d'ailleurs de faire ici une distinction entre interdire et dire que c'est interdit. Ce n'est pas du tout la même chose. Certains rabbins vous diront, nous interdisons de monter sur le temple, sur le mont du Temple. Non pas parce que c'est absolument interdit, il y a des conditions dans l'Halakha pour entrer dans certains lieux. Il y a des lieux où on ne peut pas entrer tant que nous n'avons pas la manière de nous purifier de l'impureté des morts, etc. Mais on dit le risque, soit c'est que le risque est trop grand que les règles ne soient pas respectées.
C'est une sorte de barrière, en fait.
Une sorte de barrière. Soit, alors pour des raisons peut-être plus, disons, idéologiques, que ce n'est pas encore le moment. C'est-à-dire, si vous entrez sur le mont du Temple, alors vous allez parler du Temple, et c'est encore trop tôt. La civilisation humaine dans son ensemble, et même l'opinion publique d'Israël, n'est pas encore préparée à cela. Alors, écartez-vous de cela. Alors, donc vous avez ici des arguments de type halachique, ou proto-halachique. Certains vous diront d'ailleurs, nous ne pouvons pas savoir quels sont les lieux permis et interdits, et donc c'est totalement interdit.
Mesure de précaution. Alors, votre position à vous,
Rabbi? Alors, ma position est, disons, d'esquiver la question. J'ai pu un jour, un des grands rabbins d'Israël me téléphone pour me dire, j'ai lu dans le journal que tu affirmes que tu esquives la question comme le grand rabbinat d'Israël. Alors, me dit le grand rabbin d'Israël, mais pas du tout, je n'esquive pas du tout la question. Je pense que c'est interdit. Alors, j'ai eu cette remarque que lorsque je disais que j'esquivais à la manière du grand rabbinat, c'était justement pour donner des circonstances atténuantes. Parce que si déjà il est question de décider quel est le statut du mont du Temple du point de vue du judaïsme, alors dans ce cas-là, il faut prendre ça dans son ensemble. Ça concerne pas seulement les juifs, ça concerne tout individu sur Terre. Quelles sont les lois qui concernent tout homme qui veut rentrer sur le mont du Temple? Et là, il faut avoir une position claire. Personne ne veut actuellement se mouiller.
Parce que
c'est trop explosif. Mais j'irai plus loin. Ceux qui montent sur le mont du Temple, en fait, eux aussi esquivent une question fondamentale. Vous montez sur le mont du Temple, mais pourquoi faire?
Parce qu'on peut prier maintenant.
Oui, mais vous voulez le Temple. Or, ça, ce n'est pas toujours affirmé, parce que là aussi, on sait que c'est explosif. En fait, le débat est en fait beaucoup plus profond. Quelles sont les conditions nécessaires pour construire le Temple? Va-t-il tomber du ciel? Sera-t-il construit par les hommes? En fait, c'est pratiquement la même chose. Parce que tout le monde, même ceux qui disent qu'il faut le construire aujourd'hui, comprennent que sans l'accord de la société dans son ensemble, ça ne marchera pas. Et ceux qui disent « ça tombera du ciel » comprennent très bien que ce ciel implique une transformation de la société. Et le jour où le peuple d'Israël voudra construire son temple, personne ne pourra s'y opposer.
Est-ce que justement ce n'est pas quand même le début de la manifestation de ce désir, le fait
oui, qu'il y ait cette volonté? Alors évidemment, il y a le sentiment d'une attraction spirituelle très forte à Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem et le lieu du temple en particulier sont des sources d'énergie spirituelle extrêmement importantes. Alors, on ne peut pas être indifférent, surtout si cette attraction se manifeste à un temps qui est celui du retour, où Israël est sur sa terre. Alors, évidemment, on peut être pour, on peut être contre, monter ou ne pas monter, mais en tout cas, c'est sur la table.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'il faut tenir compte des considérations géopolitiques
pour prendre une décision? Je ne connais personne qui ne tient pas compte des considérations géopolitiques d'un côté ou de l'autre.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une acceptation des pays arabes en général du fait que
en vérité, il faut bien comprendre que aujourd'hui la sanctification, disons extrémiste du monde du temple comme étant un lieu saint de l'islam ou exclusivement musulman, en fait, c'est une sorte d'innovation dans l'islam. Ce n'était pas le cas il y a 70 ans, 100 ans. Il y a eu même, on peut dire qu'il y a eu un moment dans l'islam où, à cause de l'opposition entre les Omeyyades et les Abbassides, alors il y a eu une mise en valeur de Jérusalem au moment où la Mecque était occupée par des opposants des Omeyyades. Et à partir donc du 10e, 11e siècle, c'est là qu'on a commencé à parler de Jérusalem comme étant un lieu saint de l'islam. Or, il y a aujourd'hui des positions au sein du monde musulman qui reconnaissent tout à fait que c'est le lieu saint des juifs et que ce qu'on appelle la mosquée d'El-Aqsa n'était peut-être même pas là-bas. En tout cas, même pour ceux qui sanctifiaient la mosquée d'El-Aqsa, c'est la mosquée d'El-Aqsa qui est sanctifiée et non pas le dôme du rocher qui est à l'emplacement du temple. Ce n'est que par une extension que aujourd'hui on affirme que l'ensemble du monde du temple serait une mosquée, ce qui est historiquement et même islamiquement totalement erroné.
On affirme que après la guerre des six jours, tout de suite après, les autorités de l'esplanade des mosquées avaient dit bon ben voilà, on sait que vous allez reconstruire le temple, que vous allez détruire, mais au moins laissez-nous démonter la mosquée Al-Aqsa. Est-ce que c'est vrai?
Oui, alors
on peut la mettre ailleurs.
Est-ce de la légende? Peut-être, mais en tout cas, cela veut dire qu'il était évident pour le monde entier que Israël est revenu à son temple. Et bon, alors le fait que nous ne reconstruisons pas aujourd'hui notre temple, c'est une décision intérieure du judaïsme. Et en tout cas, aujourd'hui, nous vivons un moment où quelque chose est en train de bouger au sein du monde islamique. L'idée d'entamer un dialogue qui serait enrichissant pour l'islam avec le peuple d'Israël commence à percer, en tout cas sous le terrain, parce que ce n'est pas toujours facile, quand on appartient à la communauté musulmane, d'accepter que les juifs auraient quelque chose à nous dire, mais ça commence, c'est enclenché.
Une toute dernière question pour élargir. Qu'est-ce que ça va changer qu'il y ait un temple sur cette montagne par rapport à aujourd'hui?
Vous savez, quand il y a une différence entre un lieu de rencontre qui est occupé par les personnes qui doivent se rencontrer et un lieu vide. Alors, nous avons un rendez-vous entre le Créateur et sa créature. Il y a un lieu de rencontre. Ça change tout.
À partir de quand vous allez monter sur le mont du Temple?
Au moment où ça se fera, je vous informerai.
Je vous remercie beaucoup. Rav Cherki, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions sur cette problématique très actuelle et merci beaucoup pour votre attention.